Je suis très heureux d'introduire cet atelier, d'abord parce que les chercheurs impliqués sont des chercheurs de mon équipe, l'équipe S2HEP, Sciences, Société, Historicité, Éducation et Pratique. Et puis il s'agit de travaux menés dans le premier degré, dans un réseau d'écoles. Et pour l'IFE, ce qui se passe en premier degré et les recherches qui s'y mènent sont des enjeux critiques. Et puis les questions d'enseignement des sciences. Et puis enfin, il est question de quelque chose qui est le cœur de cet atelier, qui va être présenté maintenant et qui se prolongera cet après-midi, c'est la question de la conception et la diffusion des ressources. C'est une question qui est critique, elle aussi, elle est prise sous un angle qui nous paraît fondamental, c'est-à-dire pas seulement l'utilisation des ressources, mais l'idée que les enseignants ont un rôle fondamental de créateur de ressources, et de ressources qui ne sont pas forcément dédiées à l'enseignement. Là, on nous parlera, par exemple, d'albums de jeunesse. Alors, ces questions de conception et de diffusion, de partage de ressources, elles sont essentielles, elles ont donné matière à une réponse à accepter un appel d'offres de l'ANR 2013, l'appel d'offres apprentissage, le projet REVEA, ressources vives pour l'enseignement et l'apprentissage, et je le signale puisque plusieurs Léa se sont constituées autour de cet appel d'offres. Et il s'agit d'un appel d'offres, un projet assez ambitieux qui se donne comme objectif de suivre les processus de conception, de partage de ressources par les enseignants sur 4 ans, et dans 4 disciplines, mathématiques, anglais, physique, chimie et STI. Je le dis aussi ici parce que l'académie, les 3 académies de Lyon, Saint-Étienne et donc Clermont et Grenoble vont être particulièrement impliquées puisque les 3 recteurs ont manifesté leur intérêt pour ce projet et vont mettre à disposition du projet un certain nombre de bases de données, d'outils pour bien comprendre comment, dans leur diversité de pratiques, de concepteurs, d'utilisateurs, de partageurs de ressources, comment les enseignants travaillent, comment ces pratiques évoluent sur 4 ans. On a bien sûr l'idée que pendant ces 4 ans, il va y avoir des évolutions très fortes de ces processus. Peut-être un dernier mot, plus précisément encore, dans l'Académie de Lyon, on doit rencontrer le délégué académique au numérique, Jean-Pierre Bataillé, pour croiser les 2 cartes. La carte des lieux où pour le rectorat il se passe des choses intéressantes en matière de conception de ressources, parce que les institutions ont une vue que chez nous chercheurs on n'a pas toujours, et la carte des lieux où pour l'IFE il se passe des choses intéressantes dans la région, et en particulier du point de vue des Léa, et sur les ressources en particulier ce qui se passe dans ce réseau d'écoles. Donc vous voyez qu'avec cet atelier on est vraiment dans quelque chose qui mobilise, et qui mobilise à un niveau des Léa, mais aussi à des niveaux de grands dispositifs de recherche. Je reprends l'idée qui a été donnée tout à l'heure d'intégrateurs de recherche. Ces intégrateurs de recherche doivent se penser au niveau local, régional, national, et les grandes institutions comme l'ANR doivent évidemment en faire partie. Peut-être une dernière information pour signaler que nous bénéficions dans cet atelier de la présence de Birgit Pépin, qui est là, devant, qui est professeure invitée à l'IFE, qui participe à plusieurs projets où il est question de ressources, le projet REVEA dont j'ai parlé, un projet de collaboration avec la Chine, où il sera aussi question de Léa, un autre projet européen, FASMED aussi, et elle a accepté de venir et elle réagira à l'atelier de cet après-midi. Ce sera aussi une façon d'enrichir les discussions qu'on aura. Bon, bien, je laisse la parole à Catherine Bruguière, qui est donc chercheuse au laboratoire S2HEP, qui est la correspondante recherche de ce projet, et à Anaïde Sarafian. Et malgré le nom du Léa, elle n'est pas dans le Léa, dans l'école Paul-Émile Victor, mais elle est bien dans ce réseau d'écoles qui rassemble plusieurs écoles et donc plusieurs noms. Merci.
Merci. Oui. Donc c'est bien un devoir que nous vous proposons. Et je remercie Anaïde d'être présente ce matin, ainsi que Ségolène, Laura, Marianne qui sont dans la salle, qui auraient pu être Ségolène Monin, Laura Cabody et Marianne Moulin, qui ont pu être libérées par leurs inspecteurs alors qu'elles avaient classe ce matin, parce que dans le premier degré, c'est quand même pas chose simple de se libérer le mercredi matin. Voilà. Alors, c'est sous la forme vraiment d'un exposé à 2 voix que Anaïde et moi, nous allons vous dresser un panorama des ressources pour les enseignants du premier degré que nous avons produit dans le cadre de notre Léa Paul-Émile Victor, du nom de l'école qui fut associée dès son origine en 2002 à nos travaux de recherche. Alors, Paul-Émile Vigor, Victor, c'est le nom qu'on a gardé pour notre Léa, parce qu'il est vraiment, peut être considéré comme une figure emblématique de notre Léa, qui vise à questionner les sciences à travers des albums de fiction. D'ailleurs, le portrait que vous avez sous les yeux est présent, est accroché dans la salle des maîtres où nous nous réunissions une fois par mois à l'école Paul-Émile Victor. Non, ça passe pas. Comment ça se fait ? Là, ici, ça sera mieux. Voilà. Alors, peut-être une chose que je voulais indiquer. Voilà. Et donc, c'est une figure emblématique, d'autant plus que... Paul-Émile Victor, dans ses nombreuses expéditions au pays des Esquimaux, a produit un récit qui est un album de jeunesse, dont vous connaissez sûrement le titre, « Apoutsiak, un petit flocon de neige », qu'il a donc écrit et illustré. Et ce récit documentaire qui est paru aux éditions du Père Castor a fait l'objet d'un travail de recherche qui est réalisé par Nathalie Auger et Daniel Jacobi. Nous, on ne travaille pas tout à fait sur des récits de cette nature, on travaille vraiment sur des récits de fiction, mais vous voyez qu'effectivement, c'est une forme qui avait été choisie déjà par Paul-Émile Victor pour s'adresser aux enfants. Donc, c'est la raison pour laquelle nous conservons ce nom de Paul-Émile Victor et que nous continuons à nous réunir à l'école Paul-Émile Victor, même si depuis la création du Léa en 2012, nous avons associé des enseignants issus d'autres écoles de l'Académie de Lyon. Mais Anaïde y reviendra. Deux précisions avant de démarrer notre propos. Il est important, vous compreniez bien, que notre Léa ne travaille pas sur la conception de ressources. Ce n'est pas notre objet d'étude. Hein, voilà, ce n'est pas notre objet d'étude, mais bien sur des albums que l'on a qualifié de fiction réaliste et qui ont été finalement qui ont été pris comme ressources pour la recherche en didactique des sciences et puis qui, au fil de notre travail de recherche, ont été pris comme objet pour construire à partir d'eux des ressources pour les enseignants du premier degré. Et donc ça, c'est la première chose qui est importante à exprimer. Et la deuxième précision que je voulais aussi apporter, c'est le fait que ces ressources pour l'enseignement du premier degré, elles s'inscrivent dans un travail beaucoup plus conséquent de ressources pour la recherche en didactique des sciences. C'est ce qui a préoccupé l'équipe de recherche depuis son origine, c'est la production de ressources en didactique des sciences. Et puis, Anaïde expliquera un petit peu. À un moment donné, il y a eu un basculement et il y a eu un intérêt pour aussi penser des ressources pour les enseignants du premier degré, construites dans le cadre de CELEA, donc avec bien évidemment les enseignants du premier degré, les formateurs de l'ESP de Lyon et de Grenoble qui sont impliqués et des chercheurs donc, issus de S2HEP. Alors, nos objets de recherche, je vais être très rapide là-dessus, sont donc bien des albums de fiction, des albums que nous avons qualifiés de fiction réaliste, c'est-à-dire des albums dont l'intrigue est contrainte par les lois et les phénomènes biologiques ou physiques. Donc, bien évidemment, ce sont bien des récits de fiction. Dans ces albums, les animaux parlent, les personnages peuvent tomber amoureux. Mais malgré tout, le personnage poisson suffoque quand il est hors de l'eau. Le têtard se transforme en grenouille, malgré sa promesse de ne jamais changer. Donc, on voit bien que l'intrigue est assujettie à des lois biologiques ou physiques. Et c'est en ce sens que ces albums de fiction nous ont particulièrement intéressés pour pouvoir questionner les apprentissages scientifiques à l'école élémentaire. Alors, c'est donc notre objet de recherche et notre question, c'était effectivement de comprendre dans quelles conditions didactiques ces albums pouvaient favoriser un questionnement scientifique avec des élèves du premier degré. Quelle fonction pouvaient jouer ces albums de fiction dans leurs apprentissages scientifiques ? Là, pour vous donner juste un exemple de données que nous avons pu collecter dans le cadre de notre recherche, donc à partir de l'album Un poisson est un poisson, et j'y reviendrai, c'est l'album qui a été le premier album sur lequel nous avons travaillé, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Cet album a fait l'objet d'une... je ne vais pas vous résumer l'album, mais rapidement, pour que vous compreniez, le personnage poisson vit avec le personnage tétard. Et nous, ce qui nous semblait intéressant, c'est que le poisson, à un moment de l'histoire, va imaginer le monde terrestre à travers les descriptions que lui fait la grenouille, que lui fait la grenouille, bon, le tétard, qui était son ami, devenu grenouille à présent. Et donc, il va imaginer, à partir de son cadre de référence, ce que peut être un oiseau, une vache, des personnes. Et donc, c'est la situation dans laquelle nous avons placé les élèves de la classe, donc à l'époque, c'est une classe de CE1 de l'école Paul-Émile Victor. On a demandé aux élèves de se mettre à la place du poisson et, à partir de la description que faisait la grenouille de la vache, de la représenter. Alors, là, que dit la grenouille ? Des vaches, dit la grenouille, c'est drôle, les vaches, elles ont quatre pattes, des cornes, elles mangent de l'herbe et elles portent des sacs roses pleins de lait. Et on voit Charlie, donc une élève de la classe, qui commande son dessin, donc c'est son dessin que vous avez sous les yeux, et qui explique comment elle a procédé. Je me suis mise à la place du poisson, mais le poisson, il ne sait pas ce que c'est des cornes, alors il va regarder sur lui comment, qu'est-ce que ça pourrait être ses cornes. À lui, il va regarder comme sur lui, c'est ce que ça pourrait être ses cornes, parce qu'il pourrait avoir des choses en commun avec la vache. Donc moi, j'ai imaginé qu'il imagine que ses cornes, c'est sa nageoire, et vu que la grenouille, elle a dit D, on peut en mettre plusieurs. Donc on voit ici s'élaborer les germes d'un travail d'homologie entre la vache, entre le poisson, ce que le poisson connaît des animaux de l'étang, à savoir les poissons essentiellement, et comment il peut le transporter au niveau de la vache. Et donc c'est ce type de travail, enfin ce type de propos que nous avons étudié dans le cadre de nos recherches. Donc à partir, donc ça c'est un petit peu pour situer la recherche. Rapidement, donc comme je vous l'expliquais, le Léa a été créé seulement en 2012, mais les recherches datent de 2002, et les recherches à l'origine étaient centrées sur la fonction du langage dans les apprentissages scientifiques, qui ont fait l'objet de différentes publications, et dès cette origine, l'école dans laquelle ces recherches s'effectuaient était l'école Paul-Émile Victor, dirigée par Jean-Pierre Herrera, qui a joué un grand rôle comme personne relais pour permettre le prolongement de ces recherches et malgré leur évolution sur des thématiques de recherche. Et parmi un article de référence, c'est un article qui est paru dans la revue Aster, où les chercheurs se questionnaient sur le questionnement d'un enseignant portant sur comment les œufs de grenouille se transforment-ils en jeunes grenouilles. Donc on voit que dans cette question qui avait été posée aux élèves, il y a une répétition du terme de grenouille, et donc c'est ce paradoxe sémantique qui, du point de vue du langage, intéressait les chercheurs à l'époque, que nous avons finalement repris dans l'album « Un poisson est un poisson ». C'est-à-dire, quand on a vu cet album « Un poisson est un poisson », eh bien, on a repéré le même paradoxe sémantique qui avait été étudié bien avant par nos collègues donc à propos d'autres énoncés. Et donc, c'est ce qui a valu le fait que nous nous soyons intéressés aux albums de jeunesse et que nous avons réorienter notre programme de recherche, non plus sur les fonctions du langage, mais bien sur la fonction que pourraient jouer les albums de jeunesse à travers leurs énoncés, mais aussi les images, dans les apprentissages scientifiques. Et puis donc, en 2012, nous avons fait une proposition pour intégrer un Léa, et donc nous sommes dans la dernière année du Léa. Ce que nous voudrions aussi rajouter, c'est le fait que, au-delà des production scientifique abondante, à partir de 2008, ont pu être produits un certain nombre de mémoires. Donc les enseignants-chercheurs impliqués dans la formation des enseignants à l'ESP de Lyon ou à l'ESP de Grenoble ont pu encadrer des mémoires de recherche, mais aussi des mémoires professionnelles, autour donc des problématiques ayant trait aux albums de fiction réaliste et leur rôle dans les apprentissages scientifiques. Et pour nous, c'est important parce que ces enseignants qui ont stagiaires à l'époque, qui ont été auteurs de ces mémoires, sont intégrés par la suite notre équipe de recherche. C'est-à-dire que en ayant cette production importante, conséquente dans le cadre donc d'un master, eh bien, ont été amenés finalement à intégrer notre équipe de recherche. C'est le cas d'Anaïde et aussi de Laura, de Ségolène et de Laura, que nous avions eu comme étudiante stagiaire à l'époque à l'UFM. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a une histoire aussi de production qui est importante avant d'en arriver à la conception de ressources pour les enseignants. Alors, la première ressource, j'y viens, donc nous voulions vous présenter deux ressources principales. Une première production de ressources qui est un ouvrage collectif, et la deuxième production de ressources qui est en cours de réalisation, qui est loin d'être aboutie, est celle de Mallette, organisée autour d'un album phare, d'un album de fiction phare. Donc cette première production de ressources, c'est un ouvrage donc, qui a été coécrit par 3 enseignants du premier degré, 5 chercheurs donc, S2HEP, une doctorante, donc Marianne Moulin, et qui a été coordonnée par 2 enseignants-chercheurs, Éric Riquet et moi-même. À l'origine, nous voulions que cet ouvrage soit coordonné par les enseignants du premier degré. Et de fait, compte tenu du temps que ça demandait de pouvoir entrer en relation avec une maison d'édition, suivre le dossier, c'est nous qui avons pris le relais avec Éric. Cet ouvrage de recherche, cet ouvrage donc à destination des enseignants, et c'était bien notre volonté quand on a souhaité rédiger cet ouvrage, enfin ça, je dirais, se lancer dans l'aventure d'écriture de cet ouvrage. Donc nous avons donc bien évidemment cherché une maison d'édition qui s'adressait aux enseignants du premier degré. Donc ça a été le CRDP de Grenoble pour des questions de proximité, de connaissance d'un des enseignants-chercheurs, et puis jusqu'à leur transformation aux éditions Canépée. Donc cet ouvrage paraîtra à la mi-novembre, donc d'ici une semaine, on devrait l'avoir sur le rayonnage. Voilà. Le travail d'écriture de cet ouvrage a été long. Il a été long, donc j'indique ici trois années d'écriture. Et il fallait pouvoir mettre en place des temps d'écriture aussi qui étaient longs. C'est-à-dire qu'on se réunit une fois par mois. Il est impossible d'écrire une fois par mois, de travailler sur l'ouvrage. Donc on a organisé des séminaires d'écriture l'été, sur des périodes de 3 jours. Voilà. Donc les enseignants ont accepté de prendre sur leur temps de vacances. Donc sitôt la fin d'année sonnait, les enseignants partaient avec nous dans la Drôme pour travailler cet ouvrage. Voilà. Donc ça s'inscrit quand même dans une durée, parce que la réécriture après en cours d'année a été finalement très réduite. Le travail conséquent s'est réalisé pendant ces périodes de séminaires d'été. Alors cet ouvrage est structuré autour de 4 parties. Voilà. Donc il a été préfacé par Viviane Bouys, qui connaissait nos travaux pour les avoir lus donc, dans nos productions scientifiques. Et donc il est articulé autour de 4 parties indépendantes, articulées chacune autour d'un album phare. Et donc on cherche pour chacune de ces parties à mettre en réseau bien évidemment cet album phare avec d'autres albums. Et chaque partie vise et tente de développer une perspective de scientifique particulière. Donc, la première partie s'intitule « Problématiser en biologie », s'articule autour de l'album Farm « Un poisson est un poisson ». Je vais faire rapide pour te avoir laissé le temps de parler. La deuxième partie « Modéliser en physique » est articulée autour de l'album donc « Plouf » de Philippe Corentin. La troisième partie « Raisonner en mathématiques » a pour ouvrage phare le problème de Marcel Aimé. Et enfin, la quatrième partie, qui s'intitule « Entrer dans une démarche d'investigation » et qui nous permet de faire la synthèse en fait, entre les différentes fonctions que l'on a attribuées à nos albums de fiction dans les apprentissages scientifiques, à savoir problématiser, modéliser, raisonner, et bien s'articule autour de l'album « Cette souris dans le noir » d'Ed Young. Voilà donc les 4 albums clés. L'idée, l'ouvrage, donc l'idée était toutefois de suivre, de présenter chacune de ces parties selon un déroulement qui coïncidait avec notre démarche de travail au sein de l'équipe. Donc on voit une certaine finalement un effort, enfin un souhait de faire coïncider une pratique de travail au sein de notre équipe de recherche, enfin au sein du Léa, et de l'exploiter pour pouvoir organiser les différentes parties de notre ouvrage. Donc, en premier lieu, la présentation de l'ouvrage, enfin de notre album phare, avec une analyse donc a priori de cet album sur les enjeux scientifiques et épistémologiques de cet album, avec une lecture plus organisée, focalisée sur la question de la problématisation pour la première partie, puisque c'était bien problématisé en biologie. Ensuite, des propositions de situation de classe mises en perspective avec des productions d'élèves. Il nous semblait important que dans cet ouvrage, on puisse effectivement, les enseignants puissent savoir qu'est-ce que des élèves des classes dans lesquelles nous avons testé ces séquences de classe sont capables de produire et comment nous, ça nous a interrogé du point de vue de la recherche. Proposer des pistes vers un ou plusieurs albums, une conclusion et des annexes qui permettent d'enrichir le corpus effectivement des données recueillies au cours de nos séquences. Alors je laisse la parole à Anaïde.
Donc comme l'a très bien dit Catherine, le groupe de recherche a fortement évolué vu qu'il a commencé en 2002. Nous avons intégré le groupe de recherche en 2012. Comment est-ce que nous avons intégré ce groupe-là ? Tout simplement parce que nos maîtres de mémoire, donc Éric Triquet et Catherine Bruyère, nous ont rappelé en disant « Maintenant que vous êtes titulaire de vos classes, est-ce que vous souhaitez intégrer le groupe de recherche avec nous ?» Donc nous, ça nous fait... moi, personnellement, j'ai intégré ce groupe de recherche parce que pour moi, ça a été donc une formation continue. Et en plus, je fais partie d'un réseau Éclair et dans Éclair, il y a innovation. Et pour moi, c'est une façon d'innover dans mon école. Et donc, avec Laura Cabody, Ségolène Monin, Elodie Paquet et moi-même, nous sommes rentrés en 2012 à la date de la création du Léa. En contrepartie, ça a été le départ donc, de Jean-Pierre Herrera, qui a mis fin à sa carrière de directeur et donc au sein du groupe de recherche. Donc les demandes, du coup, dans le groupe de recherche, on est passé d'un enseignant à 4 enseignants, plus les autres enseignants qui étaient là avant. Et donc la demande a évolué, c'est-à-dire que nous voulions des choses un peu plus concrètes par rapport à nos classes. Donc le travail de recherche et donc de théorie avait largement été travaillé en amont. Et nous avions donc des demandes de production de séquences d'enseignement. Et en échange, on proposait du coup aux chercheurs la possibilité de venir dans nos classes pour avoir des ressources et des productions d'élèves qui pouvaient être écrites, audio ou vidéo. Donc la création du Léa, donc, nous sommes dans la troisième année, elle a le nom de l'école Paul-Louis-Victor, comme l'a dit Catherine, puisque c'est l'école phare du départ. Mais il faut savoir que du coup, vu que des enseignants se sont rajoutés, nous parlons maintenant d'un réseau d'écoles. Actuellement, nous avons 4 écoles et il y a François qui est à la maison d'arrêt de Corba. Donc nous avons une école maternelle à Vaux-en-Velin, l'école Langevin, l'école élémentaire où je travaille à Vaux-en-Velin aussi, l'école élémentaire Croisat, l'école Les Géraniums à Lyon-Neuf et une école privée, donc l'école Saint-Sacrement. À Lyon 3 avec Ségolène Monin. En 2012, donc, nous avons décidé de commencer par un album. Le premier album s'appelait Bascule et le but était de travailler en physique sur le principe de levier. Dans l'éducation nationale française, nous avons l'avantage d'avoir une énorme liberté pédagogique et donc dans le courant de l'année, j'ai pu modifier mes séquences d'enseignement. Et donc, sur la dernière période, j'ai intégré cet album dans ma séquence annuelle pour travailler avec mes élèves sur le travail de bascule. En 2013, nous avons travaillé sur l'album « Mais où est donc Ornicard ?» qui travaille sur la classification du vivant. Et cette année, nous avons décidé de ne pas travailler sur un nouvel album, mais plutôt de faire le bilan et le tri de toutes les ressources que nous avons à portée de main, et de valoriser ce travail que nous avons mené durant ces 2 premières années.
Voilà, par la création de mallettes.
De mallettes, voilà.
Voilà.
Donc on en vient à la deuxième production de ressources que nous avons pensée, ça a été la production de mallettes albums. Les mallettes, on a l'habitude de les avoir, nous, dans l'éducation nationale, en sciences, plutôt pour stocker du matériel. Et on a les mallettes arrivant à l'école, on a déjà tout ce qu'il faut, on a la séquence, on n'a plus qu'à suivre. Nous, on voulait quand même la faire un peu différemment. L'idée, donc, c'est de permettre à n'importe quel enseignant, avec cette mallette, de s'engager dans ce rapport science et album. Donc le but, c'est de ne pas penser que c'est une boîte, une mallette, ce n'est pas une boîte fermée, mais plutôt l'idée, c'est que c'est une boîte dans laquelle on va pouvoir trouver plein de ressources différentes et que cette mallette va pouvoir évoluer par rapport aux remarques ou aux ressources que les enseignantes qui se le seront appropriées vont pouvoir rajouter. Et donc nous nous sommes posé la question au sein du groupe sur le principe de qu'est-ce que nous allons mettre dans cette mallette. Donc nous nous sommes posé des questions et nous avons énuméré un certain nombre de choses que nous allons mettre dedans. Donc déjà, évidemment, plusieurs exemplaires d'albums phares, pour une classe et évidemment une version numérique à projeter, puisque maintenant nous sommes dans l'ère du numérique. Un réseau d'albums sur le même thème, par exemple, Bascule a été complété par l'album Un petit coup de main, qui parlait effectivement du même principe en physique de levier. Une analyse a priori de l'album, qui a été du coup travaillée en amont par les chercheurs ou complétée par les enseignants. Des productions d'élèves diverses, donc évidemment les évaluations pour voir s'ils ont compris le phénomène qu'on voulait travailler. Les transcriptions d'enregistrements audio, vidéo, des dessins, afin le but étant de préparer l'enseignant un peu à ce qu'il allait avoir comme, comme production d'élèves, pour pouvoir du coup pouvoir tout de suite rebondir dessus. On pensait mettre aussi mettre une mise au point sur les enjeux scientifiques et épistémologiques. Effectivement, le but étant de faire comprendre à l'enseignant qui rentrait dans une démarche et que cette idée a déjà été travaillée en théorie. Des extraits des programmes officiels pour justifier que nous travaillons au sein de l'éducation nationale. Des séquences d'enseignement, alors complètes, avec les fiches de préparation, les fiches d'élèves, les corrections et l'évaluation. Et enfin, du matériel pédagogique divers qui a été pensé, sélectionné et même élaboré par notre équipe de recherche. Par exemple, donc des balances qui ont été achetées, des magnettes, des fiches qui ont été plastifiées pendant de longues heures, des fiches qui ont été imprimées. Et le but étant, du coup, à l'enseignant, une fois qu'il a cette mallette-là, de pouvoir directement l'appliquer dans sa classe.
Donc, en conclusion, comme ça on tiendra les temps, voilà, en conclusion... Il nous semble, voilà, donc la production de ressources, vous l'avez compris, pour les enseignants du premier degré, apportée sur deux types de ressources. Un ouvrage collectif qui se termine, je dirais, en 2014, sans pour autant, je dirais, que les enseignantes impliquées aujourd'hui dans le Léa n'aient participé à la rédaction de cet ouvrage collectif. Et aujourd'hui, effectivement, notre questionnement porte vraiment sur ces mallettes albums. Sur leur processus d'élaboration, sur ce qu'on va pouvoir mettre dans ces mallettes. Donc nous y travaillons toute cette année et la diffusion de ces mallettes, nous la pensons au niveau de l'ESP de Lyon. Pour l'instant, elles sont entreposées à l'ESP de Lyon, mais elles ne sont pas mises à disposition des autres enseignants puisqu'elles ne sont pas abouties. Voilà. Donc c'est bien une année de travail de recherche autour de la conception de ces albums. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'effectivement, la production de ressources... la production de ressources pour les enseignants, elle va mettre en tension différentes temporalités, à la fois celle d'un projet de recherche qui s'inscrit dans un temps long, vous l'avez compris, nous, nos travaux avaient démarré dès 2002, et celle du Léa qui est quand même limitée à 3 ans. Donc effectivement, 3 ans pour produire des ressources pour les enseignants, c'est court. Voilà. On arrivera peut-être à faire une mallette, la mallette, mais où est donc Ornicard, parce que nos collègues enseignants étaient impliqués déjà dans la conception de la séquence autour de cet album, ont participé aux thèses dans leur classe. Donc voilà, raisonnablement, on arrivera à concevoir avec, dans le cadre du Léa, une seule mallette. Voilà. Donc il y a cette question de temporalité qui est à prendre en compte. Il y a aussi, il faut prendre conscience aussi du fait qu'on a à... à produire différents types de productions, à la fois des publications scientifiques, mais aussi des ressources pour les enseignants. Et donc, il y a une certaine tension entre les membres de l'équipe qui en sont à la fois attirés vers le fait qu'il y a des obligations de publication scientifique et vers l'élaboration de ressources pour les enseignants qui prennent du temps, voilà, qui nous demandent de faire un travail de rétrospective sur ce qu'on a fait, etc., pour qu'on a procédé de cette façon-là. Et donc, voilà, donc on sent bien qu'effectivement... Donc là, c'est un choix que nous avons fait cette année, mais je ne suis pas certaine que ça soit renouvelé dans les années futures, à moins que l'on fasse évoluer notre Léa vers un objet de recherche différent qui porterait sur la conception de ressources. Voilà. Ensuite, le troisième élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'effectivement, les membres de l'équipe de recherche, donc au sein du Léa, eh bien, qui... associe des chercheurs, des enseignants du premier degré, mais aussi des formateurs de l'ESP, eh bien, se renouvelle. Cette équipe se renouvelle en permanence. Donc on a en permanence une entrée et sortie de chercheurs et d'enseignants. Nos enseignants restent avec nous 3-4 ans. Voilà, c'est un gros effort pour eux de venir tous les mercredis matin. Alors maintenant, c'est plus possible de mercredi après matin, donc c'est le mercredi après-midi. Voilà. Donc on sent bien qu'il y a un engagement pour 3 ans. Après, il y a d'autres choses qui vont prendre le relais. Donc il faut aussi intégrer dans ce processus de production de ressources pour les enseignants du premier degré, le fait qu'on n'est pas toujours avec les mêmes personnes. Donc les enseignants-chercheurs assurent quand même la continuité. Moi, je suis dans le groupe de recherche depuis 2002. Voilà, donc je connaissais l'école Paul-Émile Victor, j'y avais travaillé sur d'autres projets, donc le climat de confiance est là. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on n'a plus qu'une enseignante de l'école Paul-Émile Victor qui fait partie de notre groupe de recherche, mais on continue à se réunir dans cette école. Parce que finalement, de fait, c'est beaucoup plus simple. On y est bien dans cette école, on connaît les différents lieux, voilà, la personne qui peut nous ouvrir l'après-midi. C'est plein de choses pratiques, mais voilà, qui font qu'on se réunit là-bas. Voilà, donc j'en termine là. Est-ce que Anaïs, tu as quelque chose à rajouter ?
Non, après on verra cet après-midi.
Sachez que donc, nos collègues enseignants qui font partie du LAS sont aussi présents dans la salle et participeront à l'atelier de l'après-midi. Merci à vous.
Merci.